Les capsules du patrimoine, bonjour. L'émission Les capsules du patrimoine déchiffre une époque, une architecture ou un savoir-faire pour mieux comprendre d'où on vient et où on va. L'équipe du service inventaire du patrimoine du Pays Midi-Quercy vous fait part de ce qu'elle a découvert par le biais de ses recherches. Aujourd'hui, état des dernières découvertes, le décor peint dans les maisons du Pays Midi-Quercy. En dépit des aléas de conservation, les décors peints connus à ce jour à l'est du Tarn-et-Garonne ornent principalement les églises et les châteaux. La tour templière de Montricou, le château de Bioul, l'abbaye de Beaulieu-en-Rouergue, la collégiale de Montpezat-Quercy, etc. Mais qu'en est-il des décors peints dans les maisons de ce territoire? Quelles images et quelles couleurs trouve-t-on dans l'espace domestique? Le corpus et la connaissance des peintures murales se sont enrichis ces dernières années grâce aux découvertes, notamment lors de travaux de réhabilitation, de fragments peints dévoilés dans les maisons des bourgs de Bruniquel, Caussade, Quélus, Saint-Antonin-Nobleval et Montricou. Si certaines peintures du XIVe siècle ont été conservées, d'autres ont été renouvelées au fil des siècles, dissimulant complètement les épidermes médiévaux et nous faisant parvenir les décors du XIXe siècle. Toutes ces peintures sont les précieux et fragiles témoignages du cadre de vie des occupants, de la façon d'habiter, d'investir la maison et pour certaines, la volonté de présentation du commanditaire. Les capsules du patrimoine avec Carole Stanitsky, bonjour.
Bonjour.
Sandrine Ruefli, bonjour.
Bonjour.
Et Léa Gérardin-Macario, bonjour tout autant.
Bonjour.
Quand on parle des corps peints, souvent on les voit dans les églises ou dans les grandes bâtisses, hein, en Tarn-et-Garonne notamment là. On va se pencher un petit peu plus sur les maisons domestiques, en termes de décors toujours.
On connaît beaucoup mieux le décor des églises ou des châteaux. Je pense particulièrement au château de Bioul, à la peinture qui se trouve dans la chapelle castrale du XIVe siècle, qui est quand même très... qui a une sacrée notoriété en fait sur le territoire. La salle des Preux également dans le château. On a une autre église qui est celle de Notre-Dame de Sceaux à Montpezat-Quercy qui a des peintures du XIVe siècle incroyables. Donc tout cet art-là est assez largement connu, mais en revanche ce qui se trouve dans l'intérieur des maisons est beaucoup plus confidentiel et pas connu du plus grand nombre, donc c'est ce qu'on va vous présenter.
Quand on parle de décor peint, on parle de quoi exactement?
Voilà, c'est assez simple, hein, parce que le décor peint, c'est une forme d'art qui se trouve sur les murs intérieurs ou extérieurs, enfin, tout simplement. Ça, la peinture murale, c'est ça. En revanche, c'est les premières peintures murales sont les grottes ornées, donc ça remonte à la préhistoire. Et ensuite, le décor peint va jusqu'au graphe, hein, dans la rue. Le street art est également de la peinture murale. Donc voilà. Là, il y a un point commun, par contre, qui est intéressant à dire en généralité sur la peinture murale, c'est qu'il y a, c'est fragile, en fait, quoi qu'il en soit. Comme le graphe, vous savez, les graphes sont destinés à, on graphe par-dessus un autre. La peinture murale, c'est pareil. À l'époque médiévale, on va faire un décor peint du XIIIe siècle, et puis au XVIe siècle, on va rajouter un autre décor par-dessus. On va enduire, on en refait un autre, et au XIXe pareil, au XXe pareil. Donc c'est quelque chose de fragile, en fait, dans le décor peint.
Et c'est ce qui fait la rareté du nombre de décors peints connus aujourd'hui dans les maisons du territoire qu'on étudie. C'est que... ils ont été recouverts effectivement au fil des siècles, au fil des modes, et on a pu en découvrir, pas nous directement, mais souvent ces découvertes elles se font lors de travaux, et c'est grâce au relais qui se fait soit par les propriétaires qui sont assez sensibles, ou aux artisans qui nous font part de ces découvertes, et dans ces cas-là c'est pour nous une opportunité parce qu'elles sont assez rares. Et c'est aussi l'opportunité, évidemment, de les étudier et de collecter l'information pour qu'elle soit transmise plus tard au plus grand nombre. Parce qu'on ne connaît pas forcément le devenir de ces peintures dans le moyen et long terme. Parce que je rebondis sur ce que disait Carole, les édifices qui sont très bien connus, que ce soit église, château, souvent... les décors peints sont protégés, et là, nous, sur notre territoire, les décors peints des maisons ne le sont pas, ne sont pas protégés au titre des monuments historiques.
C'est toute la différence, en effet, c'est que lorsqu'un édifice est protégé, inscrit ou classé monument historique, il y a un suivi, en fait, derrière. Donc, comme il y a un suivi, on connaît mieux l'édifice, donc on peut le restaurer. On peut les peintures vont être plus préservées, en fait, parce que l'édifice va être surveillé. Et c'est pas le cas à l'intérieur des maisons. Parce qu'il n'y a pas de surveillance, évidemment, monument historique. Et puis surtout, autre chose quand même de très important, c'est qu'il faut savoir reconnaître la peinture murale. Voilà. Et c'est vraiment une affaire de spécialistes, ce que nous ne sommes pas. Léa et Sandrine se sont appuyées sur de nombreux spécialistes de la peinture murale en Occitanie et ailleurs, hein, d'ailleurs. Et on peut tout à fait... un décor peint entier de l'époque médiévale ou d'une autre époque peut... passer totalement inaperçu parce que c'est des peintures, des liserés ocre, rouge, discret.
C'est et souvent, ce ne sont que des bribes de décors peints qui sont découverts. Oui. Pas forcément un décor dans sa totalité, c'est qu'une partie.
Quelle technique vous pouvez utiliser avec vos collègues, donc spécialistes du décor peint, pour trouver un sens à ce que vous avez trouver une histoire et puis quelle technique concrète vous utilisez pour ne pas l'abîmer ?
Alors c'est, comme l'a dit Carole, hein, c'est des décors qui sont très fragiles. Donc en général, justement, on va éviter de les toucher directement. Déjà, très 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 simplement, on va éviter de les toucher parce que le moindre balayage ou grattage peut faire tomber des éléments peints. Donc ça, c'est déjà nous la première chose. Ensuite, donc évidemment, nous, on fait des photos, on essaye de comprendre l'étendue du décor et ce qu'il pourrait représenter. Mais comme on n'est pas spécialiste, on va faire appel à des spécialistes. Donc ce sont des historiens de l'art qui connaissent bien les différences de mode, oui, de décor, qui permettent de les dater. Donc en fonction de, on va dire... de la forme des feuilles, par exemple, si on a un décor végétal. Un historien de l'art, comme il connaît bien le contexte en général des arbres représentés entre 1250 et 1322, il va pouvoir nous dire ça, c'est un arbre de telle époque précisément. Donc ça, c'est pour les historiens de l'art, c'est pour ce qu'on appelle le style du décor. On peut également faire appel à des conservateurs-restaurateurs qui, eux, vont avoir une approche vraiment plus technique sur les matériaux utilisés pour les enduits peints. Parce que ce qu'on appelle peinture murale, déjà, il y a une distinction importante à faire. C'est en fait ce que nous on appelle des enduits peints, donc c'est généralement des enduits à la chaux qui ont séché et ensuite les peintres sont venus peindre dessus avec en général des ocres, c'est les pigments de base, c'est les moins chers, le jaune, le rouge et puis ensuite le noir de charbon, le blanc de chaux, ça c'est la base des couleurs, c'est les plus simples, les moins chers. Donc ils font ça sur un enduit qui a séché et c'est pour bien le distinguer de la fresque. La fresque, on la rencontre très rarement. C'est une technique qui est très, très, très onéreuse, que ce soit au Moyen-Âge ou même dans des époques plus récentes, ou même à l'Antiquité, hein, puisque à l'Antiquité, on peignait souvent à fresque, mais pas seulement. La technique, c'est qu'en fait, l'enduit est posé, il est frais, il est donc humide, c'est d'où le nom fresque, et le peintre vient peindre sur l'enduit humide, donc l'enduit va absorber le pigment en séchant et le rendant très solide. C'est la particularité de la fresque qui tient bien dans le temps, c'est pour ça que dans des décors de l'Antiquité, par exemple, on retrouve des pans entiers, parfois de murs peints, parce que la technique, en fait, fait que la peinture est très solide. Nous, ce qu'on rencontre ici, et de façon assez générale, hein, c'est pas propre au pays Midi-Quercy, c'est de l'enduit peint, donc c'est un enduit qui a séché, qui est ensuite peint au-dessus, et ça a la particularité d'être très fragile. Donc on cumule un contexte où le décor est fragilisé parce qu'on est dans des maisons qui sont pas protégées monuments historiques, qui sont très sensibles aux modes de décoration. Donc on a envie de changer tous les 50 ans, on veut refaire son papier peint. Au Moyen-Âge, on refait sa peinture murale comme on refait son papier peint. puisqu'il n'y a pas de papier peint. Et donc, on cumule un contexte où les décors sont en danger avec une technique qui elle-même est très fragile, puisque la couche picturale est vraiment très très mince. Et il suffit de... on peut imaginer, voilà, tout simplement, le cas d'un papier peint posé sur une peinture murale. Quand vous allez déchirer le lait, le risque, c'est d'emmener la peinture avec.
Il y en a beaucoup, des peintures murales de ce type en pays mini-quartier, dans des maisons, donc des maisons de privées.
Il y en a beaucoup, mais il y en a sans doute encore beaucoup à découvrir. En fait, la répartition des décors qu'on connaît est assez inégale dans les maisons. On en connaît beaucoup, par exemple, à Saint-Antonin, enfin beaucoup en nombre, hein, pas forcément en étendue de décors, je parle en nombre de maisons, à Saint-Antonin-Nobleval, parce que, par exemple, c'est un endroit où les suivis, les études sont... presque systématique, pas systématique, mais presque systématique. On connaît assez bien les maisons de Saint-Antonin-Nobleval, on y va régulièrement, donc on fait des découvertes. Y a des cas de villes, ben, par exemple, comme Quélus, qu'on connaît mal, en fait, à l'intérieur. On connaît mal ces maisons médiévales, mais même parfois plus récentes. Et donc, on y connaît peu de décors. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est juste qu'on ne les a peut-être pas encore découverts, puisqu'on n'a pas fait d'études aussi systématiques qu'à Saint-Antonin. Et après, il y a des cas vraiment exceptionnels sur le territoire, qui sont les grandes maisons de Caussade, les tours, tours d'Arles, par exemple, où là, il y a des quantités de décors peints vraiment, vraiment importantes, mais là, c'est des maisons vraiment exceptionnelles, même à l'échelle de la France, hein, quasiment.
Les capsules du patrimoine à propos des décors peints dans les maisons du pays midi-quartier aujourd'hui de retour, après la musique.
Oh là 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 là. Yeah.
Vous êtes bien dans les capsules du patrimoine, l'émission du service inventaire du PMI d'Icarcy à propos des décors peints dans les maisons du territoire. État des lieux des découvertes aujourd'hui. Donc il faut plutôt inciter les propriétaires de jolies maisons à faire appel à vous pour venir vérifier qu'est-ce que c'est ce truc bizarre derrière la tapisserie qu'on n'a pas encore tout arraché.
On invite à faire lors de travaux, s'il y a une hésitation effectivement, nous appeler, qu'on collecte au moins la donnée, donner un premier avis et peut-être contacter des spécialistes pour avoir un avis justement plus fin. Là, on a beaucoup parlé de peinture médiévale, mais effectivement, l'intérêt se porte sur les peintures de toute période, hein, jusqu'au XXe siècle. Ces décors-là sont aussi intéressants à documenter et à préserver.
C'est plus facile de documenter les peintures les plus récentes que les peintures médiévales. C'est une difficulté supplémentaire qu'on a dans la maison, c'est que c'est très difficile d'attribuer le commanditaire de l'œuvre peinte, parce qu'on manque de sources, alors que encore une fois dans les monuments historiques, je pense encore au château de Bulle ou à la tour d'Arles, on connaît le commanditaire. Pas parce que par exemple pour le château de Bulle, la famille des Cardaillac, c'est un des plus prestigieux, les lignages du Quercy, donc ils sont ultra connus. Donc on sait précisément que la chapelle castrale de Bulle, elle a été construite pour Bertrand V de Cardaillac. Et il se trouve qu'il y est enterré en 1336. Donc la peinture a été achevée pour ses obsèques. Donc on a le nom du commanditaire. C'est pareil pour la salle des Preux au château de Bulle. Le décor est attribuable à Antoine II de Cardaillac cette fois-ci, qui lui est mort en 1547. Toutes ces informations-là, on les a plus volontiers pour les châteaux ou pour les églises, mais dans les maisons, c'est rarissime qu'on ait le commanditaire. Voilà.
L'intérêt, c'est d'avoir le commanditaire. Qui les a réalisés? C'est là aussi la question qu'on peut se poser. Et puis aussi la fonction de ces peintures. Pourquoi ce qu'elles nous racontent, ce qu'elles représentent. Il y a tout aussi ces interrogations. Et on se rend compte qu'une peinture, elles peuvent avoir une fonction d'accueil, représenter un lignage, effectivement, hein, des familles, ou encore accueillir une salle de bal. Voilà, donc c'est des destinations, des fonctions assez différentes.
En tout cas, c'était assez cher à l'époque, non, à réaliser. On le faisait pas n'importe où, n'importe quand, pour n'importe quoi et par n'importe qui.
Ça, on le sait pas trop en l'état actuel des recherches. On sait juste que, par exemple, pour comparer la peinture murale à la tapisserie était bien plus onéreuse. Donc souvent, quand on ne pouvait pas avoir recours à de la tapisserie, on avait recours à de la peinture murale. En tout cas, c'est ce qui s'est passé au château de Bulle, encore une fois, puisque c'est un décor de fausse tenture qui est appliqué sur les murs. Et c'est d'ailleurs excessivement bien fait, parce qu'il y a une petite cordelette avec des petits points de suspension. Donc on voit l'affaissement de la tapisserie feinte. Donc c'est assez bien fait. Il y a un effet trompe-l'œil qui est vraiment très très bien fait à Bulle. Et donc ça, c'est pour éviter d'avoir recours à la tapisserie. Il y a beaucoup plus de tapisseries dans le nord de la France. C'est vrai que le midi de la France, c'est pas une terre de prédilection, hein, de la tapisserie. Mais c'est surtout que ça coûte excessivement cher. Donc on utilise la peinture murale. Il faut savoir que au Moyen-Âge, on sait que la plupart des églises, voire toutes les églises, étaient peintes. Il y avait vraiment une omniprésence de la couleur dans chacune des églises. Donc ça c'est attesté. Et ça devait être très beau, mais il y a très peu d'exemples qui nous sont parvenus. Parce qu'il y a eu un effet de mode, on appelle ça la mode du décroutage, où on met la pierre apparente ou la brique apparente, en tout cas le matériau du gros œuvre apparent, et du coup on arrache la peinture murale d'origine. Donc ça s'est fait dans les années 70, beaucoup. Donc il y a un bon nombre de peintures médiévales qui ont disparu, mais des peintures modernes et contemporaines aussi, puisque les églises ont quelquefois été repeintes au 19e ou au 20e siècle. Il y a un artiste qui s'appelle Gaillard Lala, qui dans les années 40 a peint un bon nombre d'églises du territoire. Donc là, de nouveau, on peut s'imaginer à quoi pouvaient ressembler ces églises peintes sur les voûtes, les colonnes, les murs de la nef, vraiment partout, quoi. Ça devait être assez, assez magnifique, l'intérieur de ces églises, il y a quelques siècles.
Et il faut imaginer aussi la même chose pour les maisons. Les murs n'étaient pas nus, les murs étaient colorés, et ce jusqu'à assez tardivement. Même s'il existe d'autres techniques pour décorer les murs au 19e siècle et 20e siècle, au 19e, on connaît dans une maison, on a découvert dans une maison de Montricou, un décor qui imite de la faïence. Donc des carreaux comme des carreaux de faïence apposés au mur, mais c'est une imitation, parfaite des carreaux que l'on connaît grâce à des catalogues qui sont les carreaux de faïence de la manufacture de Fourmintrot, j'ai du mal à le prononcer, qui est la manufacture de Dèvres dans le nord de la France.
Et ça, c'est un décor qui est peint ou il est fait au pochoir là au 19e à Montricou ?
Non, il est peint.
Ah d'accord. On pouvait aussi faire des décors au pochoir.
Alors, hein. On pouvait décorer au pochoir, c'était aussi de la peinture. Hein. Et d'ailleurs, on l'utilisait pas mal, le pochoir, à l'époque médiévale, lorsqu'on recouvrait les murs d'une imitation de grand appareil, hein, d'une imitation de pierre. Au centre, on peignait souvent des fleurettes qui étaient réalisées au pochoir. Donc, il faut imaginer une fleur avec un cœur rond et 5 ou 6 pétales en général. Et pour répéter ce motif, on utilisait un pochoir qui apportait quelque chose, une sorte de régularité. Alors ces pochoirs, hein, ils pouvaient être découpés dans des parchemins, par exemple. Voilà. Et on a, sur notre territoire, ces faux appareils à fleurettes, on en retrouve de pas mal. Alors c'est quelque chose qui est pas propre là aussi à notre territoire. Ce type de décor, d'appareillage avec fleurettes, il y a des variantes hein, dans les fleurettes. Il y a des petites, il peut avoir des fleurettes avec des végétaux, des feuilles ou que la fleurette rouge. On en trouve un peu partout en France et même ailleurs en Europe. C'est un décor qui est très courant au XIIIe et XIVe siècle.
État des lieux des découvertes du service inventaire du patrimoine du pays Midi-Quercy. Aujourd'hui, nous étions avec Carole Stadnitsky, Sandrine Rueffli et Léa Gérardin-Macario. Merci, toutes les trois.
Merci.
Merci.
Les capsules du patrimoine, une émission depuis le pays Midi-Quercy, à retrouver en podcast sur le site cfmradio.fr avec le soutien du programme européen LEADER, la région Occitanie et le département du Tarn-et-Garonne.